Alors.
Tu peux y aller une fois.
Allez. Donc, puisque, de manière assez classique, on peut partir d'éléments de diagnostic à Bruxelles, malheureusement, on le connaît, il n'est pas tout rose. Certes, le chômage est en recul, mais il reste extrêmement élevé, le pouvoir d'achat stagne, la paupérisation relative de Bruxelles ne s'arrête pas, la discrimination à l'embauche, mais aussi à l'entrée de dancing et dans le logement et dans plein d'endroits reste une calamité de premier ordre. Les performances, même si le mot n'est pas joli, quand on associe à ce mot-là, les performances en matière d'éducation sont franchement mauvaises. On associe souvent à cela le rôle de l'école, mais je pense qu'il faut oser regarder plus largement que simplement l'école. Ce n'est pas que de l'école que viendra une amélioration de ces résultats. Et pour compléter le tableau, nous avons des difficultés budgétaires et une gouvernance qui a parfois laissé à désirer, pour partie parce que Bruxelles s'est trouvée prise dans une forme de coalition objective entre Flandre et Wallonie, mais ce serait excessif de penser que c'est exclusivement à cause de cela. En un mot, s'il y a un truc dans le diagnostic que je souhaitais souligner, c'est évidemment la dégradation de la cohésion sociale. Deuxième élément, les perspectives. S'il y a un point que j'ai envie de souligner dans le droit fil de ce que je viens de dire à propos du diagnostic, c'est que les perspectives en matière de cohésion sociale ne sont pas brillantes. On peut même penser qu'elles vont plutôt aller en allant moins bien. On peut se réjouir qu'il y ait moins de croissance polluante qu'avant, mais le ralentissement de la croissance est plutôt une difficulté pour gérer cette cohésion ou ces attaques ou ce détricotage de la cohésion. On sait, voilà, mentalement, nous avons fonctionné avec l'huile de la croissance sans passer est difficile. La productivité, on en a déjà parlé, différentes personnes, les études montrent que les gains que l'on peut escompter en matière de productivité sont lents. En soi, il ne faut pas nécessairement trouver ça scandaleux. Si des augmentations de productivité, c'est des augmentations de cadence, si c'est une dégradation de la qualité du travail. Mais d'un autre côté, qui dit augmentation de la productivité, dit aussi capacité à augmenter le pouvoir d'achat des gens. Et nous vivons dans une ville où, si dans certains quartiers, on vit relativement bien et on mettrait volontiers une amélioration de la qualité de vie, et notamment la diminution du temps de travail à la rentrée, dans d'autres endroits, dans d'autres lieux, dans d'autres familles, on pensera d'abord à l'augmentation du pouvoir d'achat, et c'est éminemment respectable aussi. Que dire encore en matière de perspective? C'est que ce qui est évoqué déjà ce matin exige beaucoup de coopération, beaucoup de coordination. Or, ce que nous sommes en train de voir au niveau européen est plutôt à une autre angle. La manière dont l'Europe gère cette question éthique majeure qui est celle des demandes d'asile, hein, redisons bien que c'est des demandes d'asile, ne laisse pas, n'annonce rien de trop bon en matière de notre capacité à coopérer et avoir une approche globale et intégrée. Ceci dit, pour les perspectives, il y a deux mots que j'aimerais dire qui sont un petit peu plus réjouissants pour Bruxelles. C'est que les géographes le disent à suffisance, le lieu de la dynamique, encore plus en 2016 qu'auparavant, c'est la vie. Le pôle de croissance que l'on peut attendre pour les décennies futures, alors qu'on aurait pu penser qu'avec ces petites machines, avec le télétravail, etc., l'importance de la vie, la vie en s'estompant, eh bien, tout ce que l'on observe, c'est au contraire des effets de clustérisation, d'assemblage, de dynamique croisée. L'économie collaborative s'envisage plus facilement dans un lieu centralisé, dans un lieu urbain, qu'à la campagne. Et on peut aussi, autre dimension positive, penser que la vie en ville est génétiquement la plus écologique qui soit, et que donc nous serons portés d'une manière ou d'une autre par cette prise en compte de la dimension de la durabilité. Pour en arriver aux recommandations, s'il n'en était une D'abord, en ayant parlé un peu de Bruxelles, c'est de ne pas se regarder le nombril. Je pense que Bruxelles a été maltraitée dans les décennies antérieures, que ce soit sur le plan du financement de la région, où on a eu Flamands et Wallons qui se sont mis d'accord pour que l'on finance les régions sur base du lieu de résidence et non pas du lieu d'activité sociale et économique. Si Bruxelles a souffert, et les stigmates urbains en sont la preuve, il ne faut pas en abdiquer l'approche globalisante, internationaliste, je dirais certains, que l'on se doit d'avoir des questions d'aujourd'hui. Deuxième dimension, si on ne parle pas de l'école, on ne parle de rien. C'est sûr que c'est là que tout se passe, mais je disais, c'est l'école au sens large, c'est aussi si je disais les familles, ça paraîtrait un peu suranné, mais les structures ou les environnements dans lesquels nos gamins grandissent, c'est très certainement fondamental. Troisième dimension, mettre un accent majeur sur tout ce qui est discrimination. L'autre jour, dans la Gazette, on interviewait une chercheuse de l'université américaine, de Georgetown, et elle disait, mais enfin, c'est quand même complètement dingue. Je citais là les discriminations à l'entrée des dancing. Et elle disait, enfin, c'est complètement fou. Et en Bruxelles, on se résigne à ce que des endroits puissent pratiquer. Il y a une tolérance par rapport à cette discrimination-là qui crie vengeance au ciel et qui est certainement génératrice de haine. En Finlande, sur Keynes, puisque c'était ça associé à la question qui nous a été posée dans cette troisième partie sur Bruxelles et sur un possible retour du keynésianisme, qu'est-ce que j'ai envie de dire à propos de Keynes? Bien entendu qu'aujourd'hui, l'approche politique est tout à fait biaisée. Ce dont nous avons besoin, c'est de quatre choses. Nous avons besoin de politique monétaire, nous avons besoin de politique budgétaire, nous avons besoin de réformes, et nous avons besoin d'un... Nous avons besoin d'une approche globale, d'une approche intégrée, nous avons besoin de coopération. Donc, or, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Au lieu d'avoir quatre moteurs, nous n'en avons qu'un seul. Donc nous n'aurons qu'un seul moteur qui fonctionne aujourd'hui, c'est cette politique monétaire. Nous faisons beaucoup trop peu sur le plan de la politique budgétaire. Nous faisons trop peu en matière de réforme. Nous faisons évidemment beaucoup trop peu en matière de coordination de nos politiques. Kitty Keynes dit souvent coordination pour faire plus de relance quand ça va mal. Mais est-ce que ça va si mal que cela? Keynes, dans ses recommandations budgétaires, était très certainement à dire qu'il fallait minimiser l'amplitude des fluctuations conjoncturelles et donc, quand ça va mal, que l'État intervienne pour soutenir l'activité économique. Bien entendu, le corollaire était que quand ça allait bien, il fallait taxer un petit peu plus ou dépenser un petit peu moins pour être neutre sur ce qu'on appelle l'ensemble du cycle. Et donc, aujourd'hui, pour appeler l'État à dépenser davantage, il faudrait supposer que ce que nous vivons est un moment de crise et que demain, ça ira forcément mieux. Malheureusement, ce que vous avez entendu ce matin de différents intervenants, même si tous on cherche à avoir une petite note positive, ne laisse pas penser que demain, il y aura beaucoup plus de croissance et que les choses iront nettement mieux. Donc, faire de la relance keynésienne anticyclique ou contracyclique aujourd'hui, c'est postuler que demain, les choses iront budgétairement forcément mieux, ce qui est loin d'être acquis. Cela alors que nous savons que nous aurons à traiter à la fois la dette des retraites et la dette environnementale. Quand il s'agira de dépolluer nos centrales nucléaires, nous reverrons que l'argent dont nous disposons est peut-être une toute petite fraction de ce qui sera nécessaire pour la cause. Donc, voilà, la relance keynésienne dans ce cas-ci, oui, pour une réforme dans la dépense, oui, pour une réforme dans l'impôt, mais penser que l'État va pouvoir dépenser beaucoup plus, je n'en suis pas sûr. Penser qu'il va pouvoir taxer nettement plus, je n'en suis pas convaincu, certainement pas dans un environnement où la concurrence internationale est bien plus forte que la coordination internationale.